Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région. Top Music.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.
Quand j'avais 14 ans, il y a le film Working Girl qui est sorti. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est ça ce que je veux vivre. C'est cette sensation-là, cette réalisation-là que j'aimerais bien vivre un jour. C'est pas parce que je suis une femme qu'on va me stopper. C'est pas parce que je suis une maman que je peux pas occuper des postes à responsabilité. Il faut avancer. Et si jamais on se plante, eh ben c'est pas un problème. On change.
C'est un sacré caractère qui monte aujourd'hui sur le podium. Romina Marcovici, la nouvelle directrice de Merck à Molsheim en Alsace. La première femme en 50 ans d'histoire à diriger le troisième site du plus grand groupe pharmaceutique dans le monde. Un mental d'acier, un sens du collectif et un esprit d'équipe qui lui viennent de son sport passion, le volley. Romina n'a peur de rien et n'a jamais l'impression d'être arrivée. C'est sans doute pour cela que cette hyperactive psychologue de formation a toujours besoin d'apprendre. Membre dirigeante du programme Women in Leadership, être une femme, elle ne voit pas où est le problème. Bonjour Romina.
Bonjour Caroline.
Alors être une femme, c'est vraiment pas un problème pour vous ? Ça a toujours été le cas ?
Aussi loin que je me souvienne. Je crois que j'étais plutôt contente d'être une femme. Pas de souci.
Alors, racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivée dans cette entreprise. Qu'est-ce qui a fait que finalement, parce que je crois que ça fait 19 ans que vous y êtes.
Tout à fait.
Et que vous avez grimpé les échelons au fur et à mesure. Quelle est un petit peu votre histoire ?
Eh bien, c'est un peu par hasard que j'ai rejoint l'entreprise parce que de moi-même, je pense que j'aurais pas osé postuler dans le sens où c'était une entreprise qui nécessitait un niveau d'anglais que je n'avais pas à l'époque. Donc, comment je suis arrivée ?
Vous aviez quel âge alors quand vous êtes arrivée chez Merck ?
Donc, c'était en 2003, 27 ans. Ouais, 27
vous sortiez d'études, d'études en psychologie.
Effectivement, donc j'ai grandi dans le Haut-Rhin et donc j'ai rejoint la capitale strasbourgeoise pour mes études de psychologie. Donc je ne me prédestinais pas forcément au milieu de l'entreprise. Néanmoins, lorsque j'ai fini donc mes études de psycho, j'ai réalisé un stage et au cours de ce stage, en fait, le psychologue me dit « Non mais Romina, enfin, ne reste pas dans cette fonction-là, ne reste pas en psychologie. Avec ton énergie, ton caractère, je te verrais plutôt dans le monde de l'entreprise et plutôt dans les ressources humaines. » Et à l'époque, j'ai dit « Dans quoi ?» Donc, il me dit « Les ressources humaines. » Et ça tombe bien, il y a un nouveau diplôme qui s'ouvre à Strasbourg, dont c'est la première année, qui est un master RH en apprentissage. Et donc, cette formation s'ouvre à l'EM Strasbourg pour la première fois. Va chercher la plaquette, on remplit le dossier ensemble, tu vas voir, tu vas t'éclater dans cette voie.
Donc, les RH, c'était encore quoi, le début ?
En fait, en tout cas, moi, je ne connaissais pas. Je pense que c'était loin d'être le début dans les entreprises. On appelait ça plutôt le service du personnel.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Ouais.
Et là, commençaient vraiment les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, etc. Donc, d'où le diplôme et la formule alternance qui me convenait bien puisque j'avais vraiment envie de commencer à travailler. Mm-hmm. D'abord, je fais mon master en alternance chez Aguerre à Aubernais. Et ensuite, à la fin de ma formation, c'est le moment de chercher du travail. Et donc, je pousse les portes d'une agence intérim. Et la personne qui me reçoit me dit, justement, il y a Millipore à l'époque, puisque nous avons été rachetés depuis par Merck, qui cherche quelqu'un dans les ressources humaines. Et donc, Millipore était très connu, puisque j'avais moi-même une personne qui était dans le master en alternance, qui faisait son alternance chez Millipore.
D'accord.
Et qui me disait, il te faut un niveau d'anglais impeccable,
oui,
puisque c'est une entreprise,
mondial,
voilà,
ouais.
C'est une entreprise américaine, donc les cadres parlent anglais, etc. Et du coup, quand cette personne me dit, il y a un poste là-bas, je lui dis, enfin, ça sert à rien puisque mon niveau d'anglais est plutôt scolaire. Et il me dit, on en voit, on ne sait jamais. Et 19 ans après, j'y suis toujours.
Et vous parlez anglais.
Et je parle anglais, effectivement.
Mais alors, pourquoi psychologue ? Qu'est-ce que vous souhaitiez en faisant des études de psychologie ?
En fait, j'ai choisi psychologie pour vraiment l'intérêt et l'amour de la discipline, pour vraiment comprendre en fait comment les gens fonctionnent, comprendre les émotions, comprendre les réactions. Et bien m'en a pris, puisque c'est quand même une sensibilité que j'utilise au quotidien.
Tous les jours.
Ouais.
C'était, un choix dès l'enfance, vous aimiez ça, vous aimiez vous intéresser aux autres ou bien pas du tout?
Pas du tout. Alors, j'ai toujours été plutôt extravertie, plutôt à rechercher le contact, à être avec d'autres.
Vous auriez pu faire de la communication?
Oui, tout à fait. Tant que j'étais dehors et à plusieurs, c'était vraiment, pour moi, c'était l'environnement idéal. Donc, non, la psychologie, en fait, alors pour la petite histoire, donc à l'époque, on se disait, il faut avoir le bac. Donc, toutes les études étaient orientées pour avoir le bac. Et puis, arrive le bac et on se dit, et maintenant,
qu'est-ce que je fais?
Ouais.
Bon, enfin, ça n'a pas changé.
Non, mais je trouve qu'aujourd'hui, on accompagne nos jeunes quand même davantage, avec beaucoup plus d'exposition, avec les stages de troisième, avec les rencontres avec des professionnels, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont faites. Et donc, à l'époque, j'avais fait un bac scientifique. Et je me dis, je sais pas trop quoi faire, donc je reste dans le domaine scientifique. Et donc, je me suis inscrite à la fac de Mulhouse en maths, physique, chimie, informatique. Rien à voir. Et donc, très rapidement, je me suis dit, OK, c'est pas forcément ce que je préfère. Et au cours de cette année de maths, physique, chimie, informatique, il m'a fallu prendre une option et j'ai pris psychologie. D'accord. Il proposait psychologie. Je me suis dit, tiens, ça contrebalance, ça permet d'ouvrir à autre chose, etc. Et j'ai adoré. À l'issue de l'année scientifique, je me suis dit, OK, je me vois pas poursuivre là-dedans, je me vois pas faire mon métier dans ces disciplines-là.
Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un des plus grands groupes pharmaceutiques du monde.
C'est ça. C'est
comme
ça.
Quoi,
comme
c'est
quoi.
Incroyable, hein.
Comme quoi. Mais du coup, chaque pièce du puzzle est utilisé, c'est-à-dire que aujourd'hui on parle de microbiologie, ça me parle. Mm-hmm. Comme j'ai fait un bac avec maths, physique et sciences de la vie, toutes ces disciplines-là me parlent. Quand on parle finance, pareil, je suis pas étrangère, loin de là, au discours scientifique qui est le nôtre.
Mais c'est important ça dans la formation, non, d'avoir cette double casquette pratiquement, la fois scientifique et à la fois, on va dire quoi.
En fait, moi j'ai toujours recherché une pluralité de matières. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit je préfère les sciences ou je préfère le littéraire ou je préfère le linguistique. J'essayais vraiment de couvrir l'ensemble parce que chaque élément apportait une autre ouverture et des connaissances supplémentaires les uns par rapport aux autres. Et donc, comme vous l'avez dit, j'ai toujours aimé apprendre, toujours adoré apprendre, essayer de comprendre.
Vous étiez bon élève ?
Très bon élève, ouais.
Donc un bac avec mention ?
C'est ça.
Et donc, à l'issue de ce bac avec mention, la fac ?
Et à l'issue, ouais, la fac. Mais parce qu'encore une fois, c'était très compliqué de se projeter et de trouver une voie.
Ouais.
Voilà.
Donc, on revient à Merck. Donc, vous rentrez chez Merck.
Ouais, c'est ça. Pour un contrat de 6 semaines en intérim. Donc, 19 ans après, j'y suis toujours. En fait, très rapidement, donc je rentrais pour un remplacement au congé maternité. Très rapidement, la personne a annoncé qu'elle ne reviendrait pas. Donc, assez vite, on m'a transformé en CDI. Et puis, du coup, après, tout démarre, quoi. Différentes populations à couvrir sur le plan des ressources humaines. Et ensuite, comme je ne tiens pas en place, au bout d'un certain temps, la volonté et le souhait de découvrir de nouvelles fonctions.
Il y a une musique qui vous rappelle un petit peu cette découverte de l'entreprise, finalement ce changement de vie.
Plutôt un film. Donc, quand j'avais 14 ans, il y a le film Working Girl qui est sorti. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est ça ce que je veux vivre. C'est cette sensation-là, cette réalisation-là que j'aimerais bien vivre un jour.
Donc une femme dynamique, une femme work-alcoolique.
C'est ça, et qui réussit, qui arrive par ses compétences à avancer au niveau professionnel.
Alors qui réussit, c'est important pour vous ça, la réussite ?
Oui, très. Je suis fabriquée comme ça en fait, la réussite, que ce soit au niveau professionnel mais aussi au niveau sportif, c'est la gagne. C'est...
Donc il faut dire que vous êtes une grande sportive, vous faites du volley,
voilà.
On est tout à l'heure.
En fait, je joue dans une équipe du nord de l'Alsace.
Donc toujours aujourd'hui ?
Toujours aujourd'hui, ouais, en National 3. Donc ça nous fait voyager jusqu'en région parisienne. Et je suis à la fois présidente du club de Célesta. Donc j'essaye de couvrir un peu de clubs à la fois. Le club finalement de cœur où j'ai passé 20 ans, qui est le club de Célesta, et le club de Val-de-Sauer dans lequel j'évolue en tant que sportive.
Aujourd'hui. D'accord. Mais alors là, il faut que vous m'expliquiez, Romy. Comment on peut être directrice d'un site où il y a aujourd'hui 2000 salariés, c'est ça ?
C'est ça.
Présidente d'un club de volley qui se trouve pas du tout dans la région. et membre actif, donc joueuse, d'un club de volley qui est, j'imagine, pas très loin de chez vous.
Qui est loin de chez moi.
Ah, qui est loin de chez vous, qui en plus. Loin de chez Alors, moi. Comment on fait ? Vous avez deux vies, vous dormez pas, c'est quoi le truc ?
Alors, j'aimerais vous dire que j'ai le pouvoir d'arrêter le temps, mais c'est pas le cas. Ou que j'ai une sœur jumelle, mais c'est pas le cas non plus. Non, en fait, le volley fait partie de ma vie depuis toujours.
Et en plus, vous avez des enfants.
Oui.
Deux enfants.
Et le sport fait partie de ma vie depuis toujours. Et en fait, on m'a toujours connue avec ce sport-là, que ce soit mon mari ou mes enfants. Et c'est vrai que pendant le confinement, à un moment donné, ils se sont dit, bon, vivement que le sport reprenne. Donc, ils préfèrent me savoir au sport que...
Vous entraînez combien de fois par semaine ?
Deux fois par semaine et le match le week-end.
Le soir alors ?
Ouais.
Et match tous les week-ends ?
Quasiment.
Mais alors, comment vous arrivez à concilier tout ça ?
Eh bien, en fait, déjà, c'est des soirées qui sont bloquées dans mon calendrier. Mes équipes sont au courant. Ma famille le sait, bien évidemment, puisque c'est eux qui partagent ma vie au quotidien. Et voilà, donc c'est des moments sacrés. C'est des moments qui sont... à moi et donc qui font partie de l'agenda et tout le monde, et je leur dis merci, s'organise pour que ce soit possible.
Et pour vous, c'est vital ?
Pour moi, c'est vital parce que ça permet déjà de décompresser, ça permet de plus être dans une responsabilité qui est la mienne au quotidien. Alors, elle prend d'autres formes puisque c'est une responsabilité de joueuse, c'est toujours une responsabilité
de leader. Vous êtes capitaine ?
J'entraîne en fait aussi.
D'accord.
Du coup, j'assure également les entraînements. Donc, toujours un côté leader, toujours un côté comment gagner, toujours un côté quelle est la vision que je peux donner à cette jeune génération qui m'accompagne, parce que je suis de loin la plus âgée de l'équipe.
Mais alors justement, ce côté leader, je veux gagner, etc., ça vous l'avez depuis toute petite ?
Oui, ça très clairement.
C'est une éducation ?
Oui, c'est une éducation. C'est aussi Romina, ça sonne pas très français en fait. Donc c'est des origines italiennes. C'est est-ce qu'on a besoin d'en faire plus
parce qu'on est étrangère ?
Parce qu'on est étrangère, ou en tout cas parce qu'on a un prénom à consonance étrangère. Ce besoin de dire si j'en fais plus, c'est comme ça que j'arriverai à avancer. C'est comme ça que j'arriverai à avoir le choix, à gagner la liberté de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire.
Ouais,
et que ce soit pas autre chose potentiellement qui puisse me bloquer.
Donc il faut en faire plus.
Donc il faut en faire plus.
Donc il faut plus s'entraîner, il faut faire plus d'études que les autres, faut faire quoi ?
C'est ça, il faut comprendre où sont les points qui manquent au niveau des notes. Il faut comprendre où sont les points qui manquent au niveau du match. Et il faut comprendre ce qu'on peut faire autrement pour que ça se reproduise pas. Et du coup, c'est de la remise en question permanente, c'est de l'adaptation aussi permanente. Et là, on arrive à une partie de ma vie sur le plan sportif où ça devient, il faut faire même attention à l'alimentation.
Oui, parce que vous pouvez vous blesser en plus.
C'est ça, à la gestion des soirées, à la gestion des sorties.
Donc, c'est une hygiène de vie, en fait.
Oui. Après, je ne me prive pas, mais disons que je sais que je mettrai plus de temps que les jeunes à récupérer. Je sais que, il me faut quand même ma quantité de sommeil pour pouvoir être... au mieux de ma forme pour pouvoir donner le meilleur.
Mais c'est quoi alors ? C'est une anticipation ? Vous anticipez tout ?
Oui, mais de façon naturelle, c'est-à-dire je vais pas... C'est comme ça que je fonctionne, donc c'est pas forcément un poids au niveau de mon quotidien.
Et alors s'il y a un problème, s'il y a, je sais pas moi, une blessure, s'il y a un enfant qui est malade la nuit, vous avez pas pu dormir, comment vous gérez ça ?
L'imprévu ? Je me dis, parce que bien évidemment, ça arrive tout le temps. Pour moi, l'imprévu n'est pas un problème. C'est très très vite, ok, comment on s'adapte ? C'est quoi l'alternative ? Et c'est quoi les solutions ? Et puis, si 24 heures, je ne peux pas dormir, je regarde et je me dis, OK, dans deux soirs, là, tu pourras te reposer. Et tu tiens. Et là, c'est le mental qui prend le relais, quoi.
Ouais, donc c'est vraiment un mental d'acier.
Ouais.
Pour ça, vous êtes accompagnée par un mari très compréhensif ou comment ça marche ?
Tout à fait.
Comment vous êtes coachée ? Vous voulez bien être coachée pour arriver à faire tout ça ?
Non, alors effectivement, j'ai de la chance d'avoir un cercle familial très, très supporteur, on va dire. Mon mari le premier, mes parents, pour pouvoir gérer tout ça, c'est tout un environnement qui est là autour de moi. J'ai également une super nounou pour mes enfants.
En fait, vous avez mis une équipe en place.
Ouais, c'est une équipe... C'est une équipe qui tourne bien, ouais.
C'est ça, en fait. Vous organisez l'équipe, quoi.
C'est ça. Même si, voilà, j'essaye aussi que chacun puisse trouver sa place. Parce que tout ne doit pas tourner autour de moi. Enfin, maintenant, les enfants grandissent.
Ils ont quel âge, vos enfants ?
Mon fils a 15 ans et ma fille vient juste de fêter ses 6 ans.
Ah oui, elle est petite
ouais,
encore.
Donc elle est encore petite, ouais.
Et alors, vous les éduquez aussi comme ça, dans cette idée de se dépasser, d'aller plus loin, de chercher encore, de comprendre ?
En fait, je les éduque, en tout cas, j'essaye de leur transmettre cette notion de il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, si tu rencontres un problème, on y réfléchit, on trouve des solutions. Et essaye d'anticiper. Alors, c'est pas évident pour un ado d'être sous ce régime permanent, de dire, OK, il faut que tu prévois, il faut que tu gères, etc. Parce qu'à un moment donné, on peut pas toujours être là pour toi, quoi. Et ouais, c'est super de voir qu'il se développe dans ce sens-là. Donc, que lui aussi, maintenant, face à un problème, il va se dire, OK, ça pourrait être quoi les solutions ?
C'est quoi ces positives attitudes, toujours ?
Plutôt, ouais. Je suis plutôt à voir le verre à moitié plein, à pas m'angoisser. Je me dis, OK, on va voir. S'il y a une situation qui est compliquée, on va pas commencer à s'angoisser avant qu'elle arrive. On va se dire, OK, ça pourrait arriver. Donc, si ça peut arriver et si ça arrive, ce serait quoi les différentes options qu'on a sous la main ?
D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes chez Merck, vous êtes la première femme directrice de site.
C'est ça.
Donc ça, c'est quand même une aventure.
Ah, tout à fait.
Alors, comment on se fait respecter ? Comment on prend la place ? 50 ans d'histoire d'homme directeur et tout d'un coup, une femme jeune,
ouais,
sportive,
ouais,
positive, souriante.
Ouais. Mais je pense que c'est... Alors déjà, tout le monde me connaît, puisque ça fait 19 ans que je suis sur le site.
C'est
donc,
vrai. Mais
donc,
du coup, c'est peut-être plus difficile d'avoir la légitimité.
Non, parce qu'ils m'ont vu évoluer, ils m'ont vu réussir ce que j'avais envie d'entreprendre. Et j'ai toujours eu des échos positifs par rapport à mon avancée dans l'entreprise. Comme j'étais aux ressources humaines, du coup, je connais quasiment
tout le monde.
Et je pense que ma force, c'est ce que vous avez dit, c'est le sourire, c'est le côté proximité et le côté disponibilité. Et ça, je pense que ça fait... vraiment toute la différence. Les gens, ils ont vraiment besoin de savoir qu'ils ont quelqu'un qui est là et qui est capable de les écouter, qui est capable de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien.
Pourquoi ? Parce que vous l'avez vécu, ça ? Parce que leur poste, vous l'avez occupé ? Pas forcément.
Non, pas forcément.
Non.
Pas forcément.
Mais... C'est le côté... Alors, est-ce que ça, c'est un atout des femmes ?
En tout cas, c'est le mien. Je ne sais pas si c'est un atout des femmes. Mon prédécesseur était aussi dans la même veine, dans les mêmes valeurs, et tout le monde l'adorait aussi pour ça. Donc, je ne pense pas que c'est le fait d'être une femme. En tout cas, quand j'ai été nommée du coup à la tête du site, le premier retour des personnes, ça a été de dire c'est génial parce qu'on sait que ça va continuer sous les mêmes valeurs.
Mm-hmm.
Voilà.
Et d'accord.
Ça, c'est
donc
important.
Le fait que vous soyez une femme, en effet, ça ne pose aucun problème.
Non, absolument pas.
Alors, vous êtes quand même dans ce groupe-là des femmes qui ont le leadership. C'est,
ouais.
C'est quoi ? C'est européen ?
Non, c'est plus qu'européen. En fait, dans l'histoire de Merck, qui a racheté plusieurs entreprises, à un moment donné, ils ont racheté une entreprise qui est venue avec ce mouvement-là.
D'accord.
Donc, déjà aux États-Unis, ils développaient...
Donc, Women in Leadership.
Ouais, Women in Leadership. Et donc, ils ont dit, ce serait bien de l'étendre à d'autres régions et de commencer à s'entraider entre femmes et à passer du temps ensemble et à voir comment on avance et à proposer des opportunités de développement et de réflexion sur soi pour les femmes, par les femmes et pour les femmes.
Mais alors, c'est quoi, par exemple ?
Alors, dans un premier temps, on a créé un réseau, déjà, pour apprendre à se connaître, puisque sur le site, comme vous l'avez dit, on est 2000 personnes.
Donc, c'est que sur le site de Merck ?
Non, c'est un peu partout.
D'accord.
Donc, chaque site, après, a créé sa propre dynamique, ses propres activités.
Mais c'est uniquement chez Merck. Vous rencontrez pas d'autres femmes chefs d'entreprise ?
Non, il nous est arrivé de rencontrer d'autres réseaux sur une journée. Mais la majorité des activités, c'est au sein de l'entreprise.
D'accord.
Voilà. Donc, on est...
Donc, Merck, c'est combien de personnes dans le monde ? Près de 60 000 personnes.
Oui, c'est ça.
Ce groupe-là, où ça réunit toutes les femmes qui sont cadres ou qui sont managers.
En fait, chaque site définit qui rentre dans le réseau ou qui ne rentre pas dans
d'accord.
le réseau. Pour le simple fait qu'on a des sites à taille variable, si vous avez un site de 30 personnes ou de 15 femmes,
oui,
vous
bien sûr.
Pouvez animer un réseau avec les 15 femmes. Nous, à Molsheim, on est 2000 personnes, dont 800 femmes. C'est impossible d'entretenir le réseau pour les 800 femmes. Du coup, nous, on est une centaine de femmes vraiment à travailler sur cette thématique. Il faut être une femme et un manager pour
rentrer dans le
voilà,
groupement.
C'est ça.
Et alors, qu'est-ce que vous développez comme thématique ? C'est quoi quel est votre cheval de bataille ?
Alors, Alors, la première thématique a été vraiment de se réunir et de partager notre vision de l'évolution de la femme dans le milieu professionnel. Et on s'est rendu compte que chacune d'entre nous avait ses propres stéréotypes, ses propres limites, ses propres croyances. Et donc déjà de se mettre tout ensemble et de discuter de ces blocages internes et personnels, bah, ça permet de les faire tomber et de se dire non, c'est possible en fait. Et donc de partager les...
C'est le partage d'expérience.
Ouais, partage d'expérience, partage d'histoires réussies qui permettent aux femmes de dire bah, tiens, pourquoi pas moi en fait ? C'est pas parce que je suis une femme qu'on va me stopper, c'est pas parce que je suis une maman que je peux pas occuper des postes à responsabilité, etc. etc. Et du coup, déjà passer du temps entre nous et démystifier tout ça, c'était déjà la première étape. Et après, on s'est dit ok, qu'est-ce qui nous manque pour qu'on soit considéré pour des postes à plus haute responsabilité ?
Donc il y a encore des freins.
Il y a encore des freins. Alors on s'est rapproché des hommes. On a dit ben pourquoi ? Enfin qu'est-ce qui se passe ? Et donc ils nous ont dit ben on ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas très visible. Donc on a augmenté la visibilité. C'est-à-dire on a invité les hommes. On a dit ben voilà on fait des réunions ensemble. On fait du speed dating professionnel pour apprendre à connaître les femmes à potentiel aussi dans l'organisation. Ensuite, on a dit aux femmes, est-ce que vous postulez ? Elles ont dit, ben non, on n'est pas au courant des postes. Alors, on a commencé à diffuser les postes. Et après, donc, elles ont commencé à postuler. Et elles n'étaient toujours pas prises. Donc, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, les managers ont commencé à dire, ben en fait, elles passent plus de temps à expliquer quels sont leurs points faibles en entretien plutôt que d'expliquer pourquoi elles sont faites pour le poste. Donc, on a dû reprendre tout ça avec les femmes et dire non, c'est pas comme ça qu'on va se vendre en entretien et voilà vos points forts. Et donc, on a travaillé également sur comment réussir un entretien finalement de recrutement.
Donc, en fait, qu'est-ce que vous diriez ? Vous diriez que les femmes elles-mêmes se mettent des freins ?
En tout cas, il y a une partie effectivement inhérente à nous et c'est déjà sur ces aspects-là qu'on a travaillé et on a dit attends, enlève les œillères, change de...
Et d'où ça vient ça ? Vous, votre maman, elle était féministe ?
Je peux pas dire qu'elle était féministe. Par contre, elle était toujours exigeante. Elle m'a toujours dit, comprends comment tu peux mieux faire, comprends où sont partis les points qui manquent au niveau de la note. Et la prochaine fois, parce que tu peux le faire, la prochaine fois, tu fais. La prochaine fois, tu sauras comment répondre aux questions, etc. Donc, c'était toujours, je vais dire, la recherche de l'excellence. Et il a jamais été question, tu peux pas parce que t'es une fille ou ce type de remarque. Donc, pas forcément féministe au sens active sur ces thèmes-là à l'extérieur, mais très, très active avec sa fille, de dire... Vas-y, quoi.
Et vous donnant confiance, j'imagine.
Oui, complètement.
Hein, ça, c'est important. C'est-à-dire, ouais. Tu peux y arriver.
Tu peux y arriver, tout à fait.
Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas.
Ah bah non, aucune. Pourquoi ?
Et ça continue. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas.
Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison.
Mais ça, c'est une force extraordinaire. Vous doutez jamais ?
Non, alors c'est marrant parce que à chaque fois que je prenais un autre poste et surtout le dernier, à chaque fois on me disait mais t'as pas peur ? Et donc au bout d'un moment je me disais mais si tout le monde me pose la question peut-être que je devrais avoir peur. Mais en fait non, j'ai pas peur parce que je me dis si les autres ont réussi avant moi, pourquoi pas moi ? Je suis pas, je pense être plutôt bien câblée dans ma tête, être capable de réfléchir, être capable de trouver des solutions. Et si je sais pas, en fait, j'ai pas peur de dire, bah là, je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, etc. Et ça c'est hyper important parce que il y a pas d'ego. C'est pas mais je vais perdre la face ou ça c'est pas important quoi. Ce qui est important, c'est il y a un problème, il faut résoudre le problème et donc et si on peut y aller à plusieurs parce que moi j'ai pas la solution, et ben on y va à plusieurs. Et généralement, on y va à plusieurs.
Mais ça, quand vous dites qu'il n'y a pas d'ego aujourd'hui, vous êtes quand même le numéro un de cette entreprise de 2000 salariés, première femme dans le groupe Merck à être directrice d'un site.
Ouais.
Il n'y a pas d'ego.
Ben non, parce que l'ego, il sert à quoi ? Il sert à rien. Dans tout ce que j'ai à faire au quotidien, il ne m'est d'aucune utilité. Je trouve que c'est plus un frein d'avoir un ego et du coup de ne pas s'autoriser à demander de l'aide, etc. Donc moi, l'ego au quotidien, il ne me sert à rien. Au quotidien, c'est plein de sujets différents à gérer, plein de décisions à prendre. C'est ça ma vie. Et donc, c'est vrai que de l'extérieur, les gens me disent « Ouais, tu te rends pas compte, la première femme. » Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir, mais ça dure... C'était quoi ? C'est un épiphénomène sur toute une vie, quoi. Une fois que le côté génial, j'ai décroché le poste, passe, après, c'est le boulot qui reste, quoi.
C'est le quotidien, quoi.
Ouais, c'est le quotidien.
Ouais. Donc, on va au boulot, on fait ce qu'on a à faire. Ensuite, on va faire du sport. C'est ensuite, ça. On rentre, on fait...
S'occupe des enfants.
Alors, est-ce que quand on est une femme, on culpabilise éventuellement de pas être... j'imagine que vous êtes quand même pas souvent à la maison. Est-ce qu'on vous le reproche? Est-ce qu'il y a ce sentiment-là?
Alors, je vais vous raconter une anecdote parce que je pense que c'est, je pense qu'elle est intéressante. Donc j'avais que le premier et donc on m'a demandé d'aller travailler en Allemagne au siège de l'entreprise. Mon fils avait à l'époque 8 ans et dans mon poste précédent, j'étais amenée à beaucoup voyager. Donc pour moi, bouger en Allemagne en laissant donc mon mari et mon fils à la maison, ça ne me semblait pas insurmontable parce que de toute façon, ils étaient déjà habitués à me voir voyager pas mal. Donc j'en ai discuté avec mon mari et puis il me dit, écoute, vas-y, voilà. Ça, et donc ça voulait dire partir le lundi soir et rentrer le jeudi soir. Et donc le reste de la semaine, j'étais en Allemagne.
Et donc avec le volet, vous faisiez comment ?
Alors. Je faisais donc une séance de muscu en Allemagne quand même pour rester en forme et quand je rentrais le jeudi, j'allais directement à l'entraînement avant de rentrer à la maison. Donc je n'ai jamais arrêté.
Ah, c'est génial parce que voilà. Plus d'une femme aurait dit bon bah je laisse tomber le volet du fait qu'il faut quand même que je sois à la maison, non ?
Eh ben non, eh ben pas moi. Et donc mon garçon avait 8 ans et donc on se met d'accord, je lui explique, j'ai dit voilà maman on va changer de poste, ça va me demander d'aller toutes les semaines en Allemagne. Donc il me dit ah ok d'accord.
Vous parliez l'allemand ?
Non. Mieux que l'anglais quand j'ai démarré. Et donc arrive début janvier, démarrage dans mon nouveau poste, première semaine, je fais ma petite valise le lundi, je pars le lundi soir, je rentre le jeudi soir. La semaine d'après, je refais ma petite valise le lundi et là mon fils me regarde et me fait « mais tu fais quoi ?» Alors je lui dis « bah je prépare ma petite valise puisque je vais en Allemagne, tu sais, maman a changé de poste, elle va donc... » Et donc il me regarde et il me dit « mais ça va être comme ça tout le temps ?» Alors je lui dis « bah oui, tu sais, je t'avais expliqué, voilà ce que ça veut dire, etc. » Et donc il me dit « mais tu es obligée ?» Et donc je le regarde, je lui dis « oui, et surtout j'ai envie. » Et là, du haut de ses 8 ans, il me regarde, il me fait « ah ok, bah si t'as envie, alors tout va bien. »
Ah c'est génial.
Et il est parti. Il y a ce côté, quand les enfants voient que vous êtes bien, bah finalement, voilà, tout ça se met en place.
Non mais ça c'est facile à dire, j'ai envie de dire oui. Ouais. Si votre mari, si vos enfants voient que vous êtes bien, alors ils sont bien.
Ouais.
Mais enfin c'est quand même... pas forcément évident à vivre tous les jours. J'imagine que ça devait vous manquer de temps en temps, que peut-être que, je sais pas, si on vous indiquait que votre fils avait fait je sais pas quoi, et puis vous étiez pas là pour le voir. C'est ça que je veux dire culpabiliser. Est-ce que y a jamais ce sentiment-là ? Ou alors est-ce qu'il est tellement furtif ?
En fait, il est furtif. Il est à évacuer parce que sinon, je pense qu'il paralyse.
Ouais.
Et que souvent, je me disais, mais est-ce que... l'homme se culpabiliserait autant ou est-ce que c'est parce que c'est être une maman qui fait qu'on devrait culpabiliser? Et du coup, à chaque fois,
j'essayais la pression sociale.
Voilà. Et à chaque fois, j'essayais de me sortir de cette pression sociale où le rôle de la maman est d'être à la maison et de s'occuper des enfants. Et où je me disais, mais je peux être une super maman, m'occuper de mes enfants, mais aussi vivre ce que j'ai envie de vivre. Et je dois pas culpabiliser pour ça.
Et votre mari vous a aidé, j'imagine?
Complètement. De toute façon, c'est...
Il faut être deux.
Ouais, il faut être deux, complètement.
Il fait quoi, votre mari ?
Il est psychologue.
Ah.
Ceci explique peut-être
cela. Non, mais cette formation de psychologue, vous diriez que c'était important pour vivre ce que vous vivez aujourd'hui ?
Oui, parce que c'est quand même mettre l'écoute au centre de tout. C'est quand même prendre conscience des émotions de l'autre, du message de l'autre. Et du coup, de se dire, bah oui... par la parole, en fait, on peut gérer pas mal de problèmes ou en tout cas, on peut poser, quand il y a des choses où on sent que ça va pas bien, de se dire, ben oui, on en parle, quoi. On en parle. Donc, cette formation, elle ouvre aussi et elle démystifie cette parole qui est nécessaire pour que les conflits se désamorcent et qu'on puisse continuer à avancer, quoi.
Donc, le nerf de la guerre, c'est la communication.
Ouais, c'est la communication. Et puis, de prendre conscience qu'on est à plusieurs, quoi, qu'on est deux, et qu'il faut que et l'un et l'autre trouvent sa place et son équilibre.
Mais c'est quoi ? C'est aussi le lâcher prise ? C'est accepter que, ben, vous soyez pas forcément là à des moments qui pourraient sembler clés ou bien de laisser faire l'autre, de pas vouloir tout manager.
Oui, c'est laisser faire. C'est laisser faire et même s'il peut faire différemment que ce que moi j'aurais pu envisager, c'est d'observer et de voir que comme lui il fait avec sa façon, etc., bah finalement ça marche aussi. Et donc de se dire bah ouais, enrichis-toi en fait de cette différence plutôt que d'essayer d'imposer un truc qui finalement n'appartient qu'à toi.
Et ça, vous le faites dans l'entreprise aussi?
Et ça, je fais dans l'entreprise aussi, ouais.
C'est une sacrée force, ça, quand même.
Ouais, ouais. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais c'est hyper important, en fait. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous perdez au début, c'est-à-dire que ça irait plus vite si j'y allais à ma façon, vous le gagnez sur le long terme. Parce que du coup, voilà, les gens se sentent impliqués et en fait, ils viennent avec vous, quoi.
Ils donnent le meilleur, alors.
C'est ça. Quand on est capable de dire « Attends, vas-y, explique », à quelqu'un qui est plutôt en mode silencieux ou qui est plutôt en mode analyse, etc., et qui va peut-être pas forcément autant s'exprimer que les solaires, on va dire, de se dire bah, ces personnes-là, elles nous apportent tout autant, voire plus que nos ressemblants, et ben c'est génial. Parce que...
Donc j'entends que votre mari est très différent de vous.
Ouais, on est complémentaires, ouais. On est complémentaires.
Vous êtes solaire et lui, il est plutôt réfléchi.
C'est ça. Et ça marche plutôt très bien.
Ouais. Et donc, vous restez combien de temps en Allemagne?
Donc, je suis restée 2 ans en Allemagne.
Donc, 2 ans à partir le lundi, à revenir le jeudi.
C'est ça.
Et quand vous étiez rentrée le jeudi, vous aviez le week-end.
Oui, alors du coup, le vendredi, je travaillais de la maison où j'allais sur le site du coup à Molsheim. Et voilà, et après le week-end, effectivement, j'étais chez moi.
Enfin, sauf quand il y avait match.
Sauf quand il y avait match.
Donc après, vous revenez à Molsheim, en Alsace?
Oui, après je reviens à Molsheim, en congé maternité de la deuxième. Et du coup, voilà.
Alors ça,
après,
ça doit être incroyable, un congé de maternité chez vous. Plus de sport,
ouais,
et pas de travail. Comment on fait?
Eh ben, il reste toujours la présidence, ça c'est sûr. Donc
du club.
Ouais, toujours de l'activité avec le club. Et en fait, comme c'est de date à date, je sais qu'à un moment donné, ça va se terminer.
Donc on en profite?
Donc on en profite, et on en profite à fond.
Oui, donc vous avez besoin quand même d'avoir une vision, c'est-à-dire vous devez savoir un peu comment ça va se passer dans le temps, non?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, comme je savais que je reprenais le travail début juin, etc., du coup, on est vraiment capable d'en profiter et de savourer ces moments.
Après cette expérience allemande,
oui,
vous revenez sur site et là, vous restez là. Alors, c'était il y a longtemps, puisque votre fille a 6 ans, c'était
il
y a au moins 6 ans.
Voilà, je suis revenue donc en 2016. Alors, je reste là, oui et non. Je rejoins à ce moment-là les organisations marketing.
Vous ennuyez vite?
Non, pas vraiment, je pense pas. En fait, tant que je suis occupée, je peux rester assez longtemps sur les mêmes choses, avec les mêmes personnes. Tant que j'ai l'impression d'apporter quelque chose, ben, ça fonctionne. En fait, je commence à m'ennuyer si, à un moment donné, je ne suis plus nourrie intellectuellement. Ça, c'est peut-être ce qui va déterminer effectivement le début de l'ennui. On va dire ça comme ça.
Est-ce qui vous a poussé à aller faire encore une formation à l'ESSEC?
Ouais. Alors, oui. Et aussi parce que j'ai besoin d'avoir un socle théorique pour pouvoir occuper un poste et me dire ok, je peux me reposer sur ces connaissances-là. Je trie ce que j'ai envie de trier, je prends ce que j'ai envie de prendre et je choisis ce qui me convient et ce qui me convient le moins bien. Mais je me dis ok, si jamais j'ai besoin de réfléchir, j'ai un socle théorique et je peux aller me réfugier là-dedans pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc j'ai toujours accompagné mes prises de poste, en cas pour les majeurs, avec une formation.
Une formation,
ouais.
D'accord. Et à l'ESSEC, c'était quoi?
C'était un executive MBA où là, vous voyez vraiment toutes les fonctions de l'entreprise et donc vous comprenez comment une entreprise fonctionne dans sa globalité.
Donc, chaque fois que vous changez de poste, vous formez, vous
ouais,
blindez.
Ouais.
C'est ça l'idée?
Ouais. Je lis beaucoup parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi et qui sont extraordinaires. Il y a des sociologues qui ont réfléchi sur... l'environnement du travail, etc. Et donc, je retrouve des champs théoriques qui me sont familiers, comme à travers la psycho, etc., pour toujours essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre et qu'est-ce que je dois savoir avant de m'engager sur les nouvelles voies dans lesquelles je m'engage.
C'est un esprit curieux, mais nourri.
C'est ça. Et de pouvoir me dire, je peux raisonnablement aussi porter des messages, porter des concepts, en ayant réfléchi à ces concepts et en ayant une base solide qui permette la discussion avec d'autres. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que, in fine, je n'ai jamais été experte dans aucun des jobs que j'ai eus. Et donc, aller rechercher dans la théorie et reprendre des études, etc., me permettait de combler un peu cette part... d'expertise que je n'ai pas parce que ce n'est pas ma formation initiale. Et que donc, quand vous avez des scientifiques en face de vous, et ben à un moment donné, soit vous êtes capable, vous, de vous mettre au niveau et d'avoir une discussion intelligente et construite, ou soit ça se complique un peu. Donc voilà.
Là, on vous taille des croupières, j'imagine.
C'est ça.
Donc alors, c'est quoi ? Vous êtes toujours en train de vous informer, de comprendre, de vous former, parce que tenir un site comme Merck à Molsheim, c'est aussi un grand défi scientifique.
Oui, c'est parce qu'il faut comprendre les différentes problématiques qu'on vous présente être capable d'en mesurer la criticité. Parce que sinon, vous vous noyez très rapidement. C'est-à-dire que tout le monde vient avec une liste longue de sujets à traiter. Et donc, soit vous êtes capable de les prioriser en disant « Ok, ça, c'est un petit souci et on va le régler, etc. » Et ça, par contre, là, c'est là où il faut vraiment mettre l'énergie et le point de vigilance. Ou soit vous perdez pied. Donc, au plus tôt, je suis capable d'identifier et de comprendre « Ok, là, il faut vraiment que je mette du temps et de l'énergie, etc. » au plus facile c'est pour gérer la totalité des thématiques.
Et c'est quoi, vous avez mis en place une équipe autour de vous pour que ça fonctionne ?
Oui, donc
comme à la maison ?
Ouais. Enfin, l'équipe était déjà là, hein, donc ça c'est vraiment le point super intéressant. Oui, on est une équipe de 13 personnes à gérer la totalité des activités qui sont sur le site.
Bon, mais à un moment il faut prendre une décision, c'est vous.
C'est ça.
Et alors ça, vous savez faire ?
Ouais.
Comment on s'entraîne pour ça ? Il y a un côté tête brûlée où toutes les décisions sont pesées, réfléchies ?
Non, tout ne peut pas être pesé, réfléchi. Il y a un moment donné où on demande... Alors, j'ai évolué hein, par rapport à ça. Au début, c'était un peu plus tête brûlée et on y va au feeling, on va dire. Et en fait, on apprend. On apprend parce qu'on se dit « Oups, là, j'aurais mieux fait d'attendre un peu et de peser le pour et le contre avant de bouger. » Donc ça, ça prend. Et au fur et à mesure des années, on apprend à se dire « Bon, attends, on va demander des faits d'abord. » Et ensuite, on va aussi dire « Et toi, tu ferais quoi ?»
On pose la question à l'autre.
Ouais, on pose la question à l'autre. Quelle est ta suggestion ? Il y a des moments où moi, j'ai mon propre avis et je vois que la suggestion colle parfaitement. Donc là, ça va vite. On dit « Ok, on y va. » Et il y a des moments où je suis pas forcément complètement à l'aise par rapport à la suggestion qui m'est proposée. Et là, on discute. Et là, on prend le temps. Et on ne démarre qu'à partir du moment où tout le monde est confortable avec la direction qu'on est en train de prendre.
Mais vous savez toujours ce que vous voulez.
Ouais. Après, je dis pas que c'est toujours que ce que je veux est toujours finalement la bonne option.
Mais vous n'avez pas de doute, vous. Vous avancez dans la vie, vous n'avez pas de doute.
Ouais. Ouais, il faut avancer. Et si jamais on se plante, eh ben c'est pas un problème. On change.
Donc ça, c'est une formation un peu anglo-saxonne comme ça. C'est de se dire ben, l'échec fait avancer plutôt que l'échec nous plombe.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, et c'est pas pour rien que... en fait, quand je suis arrivée chez Millipore, qui était donc entreprise américaine, je me suis sentie chez moi, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que ça me convenait mais parfaitement en termes de façon
Attends, vous
de
êtes
voir.
D'origine italienne, ça n'a rien à voir.
Ouais, non, je sais pas. Questionner mes parents. Et...
Ils faisaient quoi, vos parents ?
Mon père était ouvrier, c'est marrant, dans le secteur de la chimie aussi. Et ma maman s'est occupée de nous, enfin de mon frère et de moi, à la maison. Donc, était femme au foyer et gérait le foyer.
Avec dynamisme.
Tout à fait.
En fait, ce qu'ils vous ont apporté, c'est une sacrée confiance en vous.
Ouais, une confiance, une stabilité.
Pas d'hésitation,
on y va. Ouais.
Votre frère est pareil ?
Non.
Ah bah, alors ça, c'est étonnant. C'est
ouais, je pense que lui, il est plutôt « je réfléchis d'abord et j'y vais ensuite ». Alors, il y va, hein, mais je pense qu'il est beaucoup plus réfléchi. Alors que moi, je bouge tout de suite. En fait, je bouge d'abord et je regarde comment ça
évolue.
Ouais, comment ça évolue.
Ouais, c'est vraiment... En fait, ce qu'ils vous ont donné, vos parents, c'est ce goût de la liberté.
Ouais.
De faire.
Ouais.
Je fais, puis je verrai bien.
Bah oui, je verrai bien.
Alors que... Chez Merck, c'est quoi la suite ?
Bah, c'est déjà bien m'amuser sur le poste dans lequel je suis. Après, c'est marrant, en fait, on me dit « Est-ce que c'est votre dernier poste ?» Alors, je dis « J'espère que non. » Je démarrais en novembre de 2021. Quoi.
Ah oui, donc c'est très récent.
Ouais, ça fait 5 mois, donc on va déjà bien s'amuser là.
S'amuser, vous dites ça parce que c'est un amusement.
Ouais, moi, je m'amuse, ouais.
Aller au travail, c'est un amusement.
Ouais. Je me dis,
la vie est un amusement.
Oui. Ouais, globalement, ouais. globalement, faut prendre plaisir dans ce qu'on fait. On passe tellement de temps sur notre lieu de travail ou tellement de temps à faire des activités, etc. S'il n'y a pas d'amusement, c'est triste.
Ouais, mais pour ça, il faut avoir un esprit qui a envie de s'amuser. Vous voyez, il y a des gens, ils sont plombés parce que le train est en retard, parce qu'il pleut, etc. Ouais. Donc, c'est quand même un esprit que vous avez qui est extrêmement ouvert, positif.
Ouais, moi, je me réjouis. Je me dis, ah tiens, c'est quoi qui vient après, en fait. J'ai appris aussi à profiter du quotidien.
Du moment.
Ouais. D'être bien dans là où je suis et être capable et toujours ne pas perdre la réjouissance pour ce qui va arriver. Mais ouais, j'ai appris à savourer aussi l'instant présent.
Donc, qu'est-ce qui va se passer demain chez Mère?
Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Voilà, donc relever les défis de croissance du site, ça c'est sûr. Et puis, après, s'intéresser. S'il peut y avoir d'autres évolutions, eh ben, on ira chercher les autres évolutions.
Donc, c'est ça, vous êtes tout le temps en fait en recherche de qu'est-ce qui aurait de différent, qu'est-ce qui aurait de peut-être... J'ai envie de dire mieux, mais c'est pas forcément mieux. Mais
non, c'est pas mieux. C'est en fait, je me dis, comme ça fonctionne, globalement ça fonctionne. Par contre, il y a des points où on pourrait améliorer si on faisait ci, ça, ça et ça. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on changerait pas pour essayer d'améliorer et de faire en sorte que ça aille encore mieux.
Donc pas de barrière. Vous mettez aucune barrière.
Non, pas de barrière.
Vous élevez vos enfants de la même façon.
Ouais, complètement. Foncez.
Faut foncer.
Ouais.
Ouais. Ouais. Bon, pour ça, il faut être en bonne santé, mais vous faites en sorte d'être en bonne santé.
Oui, après, il y a des impondérables, mais si la santé n'est pas là, s'il y a un pépin ou autre, etc., ça, malheureusement, on ne peut rien faire contre, quoi. Mais tant qu'il y a tout ça, le terrain de jeu, il est génial.
Le volley, vous avez commencé jeune?
Non, pas si jeune que ça, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, avec les baby volley, etc., on peut commencer à partir de 3 ans.
Vos enfants jouent?
Ma fille, oui. Mais bon, généralement, vous commencez le volley à partir d'une dizaine d'années. Ça, c'est à peu près tant que le schéma moteur soit à peu près opérationnel. Et moi, j'ai commencé vers 14-15 ans. Donc, assez tardivement par rapport au démarrage normal. Mais je faisais pas mal de ski. On était dans le Haut-Rhin, c'était les mercredis des neiges. De 6 à 15, c'était plutôt le ski.
Donc, le sport, ça apporte un équilibre.
Ouais, complètement.
C'est important.
Ouais, très, très.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes aujourd'hui qui veulent, comme vous, avoir une belle carrière internationale dans un grand groupe?
Déjà, d'apprendre les langues étrangères.
Oui, ce qui vous a fait défaut, mais ça n'a pas été un frein, finalement.
Non, ça n'a pas été un frein. Après, moi, je leur dis... en fait, aujourd'hui, quand je vois la jeunesse, elle a tellement d'opportunités. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes à l'université, ils ont des possibilités de faire des semestres. Enfin, c'est même inclus dans leur parcours, de faire des semestres à l'étranger, etc. Quand moi, j'étais jeune, il y avait Erasmus, certes, mais il n'y en avait que quelques-uns. C'était vraiment... très, très à la marge par rapport à qui partait ou qui restait, etc. Donc, et je pense que le côté international était un peu moins développé à l'époque. Aujourd'hui, tout est ouvert, les voyages, les entreprises. Enfin, ils ont une richesse et une possibilité assez folle concernant le monde et l'ouverture au monde. Donc moi, je dis aux jeunes, profitez-en, essayez de voyager, essayez d'apprendre les langues étrangères, devenez familier. En plus, avec Internet... les connexions, etc., les films en VO, enfin tout ça, c'était...
Il n'y a plus de frontières, quoi.
Il n'y a plus de frontières. Et tout ça, ça n'existait pas à mon époque. Donc ouais, je leur dis, utilisez toutes les possibilités, faites-vous plaisir, découvrez, connectez, et après, le reste, ça vient. Et je vois, par rapport au CV qu'on reçoit, il y a des jeunes qui ont des parcours extraordinaires. Pourtant, ils sont tout jeunes, ils ont 22, 23, 24 ans, et ils ont déjà vu tellement de choses et en fait, du coup, cette agilité, cette diversité, en fait, tout devient facile pour eux. Et le changement n'est plus un problème. Quelqu'un qui est resté tout le temps sur place, etc., dès qu'il y a une modification, c'est plus compliqué.
Pourtant, ça fait 19 ans que vous êtes dans la même entreprise.
Ouais, ouais. Et pourtant, elle a changé 19 fois. J'ai envie de dire. Ça n'a jamais été au quotidien, ça n'a jamais été pareil.
Mais c'est vous qui vous êtes créé ce quotidien.
Oui, c'est moi qui me suis créé le quotidien. Et puis même, je veux dire, on s'est fait racheter. Et puis il y a d'autres influences quotidiennes. Il y a des réorganisations. Donc, ça change en fait tout le temps. On n'a pas du tout l'impression, plus les nouvelles technologies, etc. Je n'ai plus du tout l'impression d'être dans la même boîte.
Mais c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, et bien sûr, on demande aux jeunes d'être multiples, de connaître des langues, d'être ouvert au monde, etc. Mais l'adaptabilité, Est-ce que c'est pas un mot-clé? Parce que ce que vous prouvez, vous, c'est que vous vous êtes adapté absolument à tout changement.
Oui, oui.
Tout en restant toujours en Alsace.
Oui.
Je veux dire, vous n'êtes pas partie travailler à New York, à Singapour, j'en sais
j'aurais
rien.
J'aurais bien aimé.
Cette adaptabilité, ouais. Est-ce que c'est un mot-clé?
En tout cas, ça facilite vraiment la vie. Parce que si on est adaptable, finalement, encore une fois, tout est possible. Tout est possible. Le changement n'est pas lourd. En fait, on se dit, voilà, on va y arriver. Enfin, OK, il y a des choses qui changent, il faut s'adapter, etc. Mais on l'a déjà fait et on sait qu'on est capable de le faire.
J'imagine que dans vos 2000 salariés, vous savez très bien que le changement, c'est perturbant.
Ah bah oui.
Regardez le Covid.
Ah oui, tout à fait.
On a travaillé de chez soi, on a dû changer totalement notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de voir les autres, de communiquer avec les autres. Comment vous avez géré ça?
Alors, le Covid a été une période très apprenante. Parce que moi qui étais... c'est simple, en fait, on a fermé le site. Le lendemain, je devais prendre l'avion pour Seattle. Et là, je reçois un message et on me dit, tu pars plus. OK. Bon, bah, OK. À l'époque, on s'est dit, bon, ça va durer combien de temps? Je sais pas.
Oui, genre 3 jours.
Ouais, voilà. Donc, je ne suis pas partie. Et en fait, voilà, pendant 2 ans, on n'est plus partie. Et au-delà de plus voyager... qui était quand même un point enfin, que j'adore, hein, je continue.
Vous voyagiez beaucoup
Ouais, je voyageais beaucoup et j'aimais ça, quoi. Enfin, pour moi, c'était important d'aller voir d'autres cultures, d'autres personnes. Et voilà, et du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvée H24 à la maison. Et 2 semaines après, parce que nous, on a été un des premiers sites à fermer, puisqu'on avait un cas positif tout de suite. Et 2 semaines après, les enfants nous rejoignent. En tout cas, me rejoignent, puisque mon mari étant dans la fonction hospitalière, lui continuait à
lui,
aller...
Il travaillait.
Lui, il travaillait. Donc, je me suis retrouvée à la maison avec mes deux enfants, H24.
Là, c'est du changement.
Et là, c'est du changement. Et là, c'est du changement. Et en fait...
qu'il fallait leur faire l'école.
Alors, dans toute cette histoire, j'ai eu de la chance parce que le grand faisait déjà ses devoirs tout seul. Donc, lui, au collège, voilà, il savait déjà se gérer. Et la petite était en maternelle, donc il n'y avait pas de devoirs. Ce qui est drôle, c'est qu'on a créé notre petit trio de choc et donc on s'est entraidé. Je dirais, ça s'est fait naturellement. Donc j'ai demandé à mon fils, j'ai dit, écoute, j'ai vraiment besoin d'un coup de main parce que professionnellement ça n'arrêtait pas. Et donc il gérait la petite. Après elle faisait des siestes. Après elle s'occupait. Enfin chacun en fait a mûri vraiment plus vite. Je vais dire à cause de toute cette histoire.
Et donc là, pour une fois, c'est vous qui étiez à la maison et votre mari était à l'extérieur.
C'est ça. Alors, on parlait toujours du monde d'après. Et moi, je me souviens, je disais, non mais moi, je veux juste qu'on me rende mon monde d'avant, en fait.
D'avant.
Moi, ça me convenait super bien. Parce que tout le monde disait, c'est génial, on va développer le monde d'après. Moi, j'étais là, non mais moi, en fait, j'étais très bien avant. Donc, si on pouvait juste me rendre l'un ou l'autre truc, ça me plaisait bien, quoi. Mais en gros, ça a fait une parenthèse apprenante et très particulière. Parce qu'on s'est retrouvés déjà en famille, chose qui ne m'était pas arrivée, en tout cas, je pense comme ça, sur cette durée-là, ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, voilà, on se découvre les uns les autres. C'était génial. On a des discussions, on se prend le temps de discuter, de répondre aux questions, de questionner aussi. Et ce n'est pas... métro, boulot, dodo, allez, la douche, le truc, t'as fait les devoirs. C'est vraiment, on est tous là, comme ça. Et puis, on va essayer de profiter du moment et de s'inventer autrement.
Vous avez apprécié.
Ouais.
Et ouais. Alors, aujourd'hui, vous avez changé un petit peu votre façon de vivre au quotidien? Ça a changé quelque chose, le Covid?
Ça a changé. En fait, on travaille plus facilement de la maison. On s'autorise beaucoup plus le fait de se dire ça va faciliter même mon activité au quotidien, donc je travaille de la maison. Donc ça, c'est bien. Les confinements successifs étaient même c'est cool. C'est reparti pour un tour. Malgré le côté négatif de toute la pandémie et des contaminations, etc. En fait, on sait que cette bulle-là, elle peut être aussi belle, quoi. Et du coup, ça devient, c'est une nouvelle opportunité de se retrouver.
En fait, c'est votre état d'esprit. Vous prenez toujours la vie côté schwepping.
Ouais. Bon, je peux être bougon aussi des fois. Hein. Je ne suis pas tout le temps...
Qu'est-ce qui vous énerve?
Alors, ce qui déclenche l'énervement, c'est quand je n'ai pas assez dormi, ça c'est sûr. Quand je suis fatiguée, je suis un peu plus à fleur de peau. Quand ça va pas assez vite ou quand le temps est contraint, c'est là où ça peut friter. Ouais, ça peut commencer à frictionner.
Vous n'avez pas beaucoup de patience.
Alors, on apprend à être patient quand on a des enfants. Mais des fois, voilà, à un moment donné, il faut quand même y aller.
C'est ça. Et il faut que ça suive autour.
C'est ça.
En tout cas, pauvres. Vous faites en sorte que ça suive.
Ouais. Des fois, je me dis, bon, lâche un peu la bride, ça leur fera du bien et à toi aussi.
On devrait tous avoir une petite formation de psychologie.
Ah ouais, là, j'encourage, ouais.
C'est vrai ?
Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est important. En fait, c'est vraiment se comprendre soi beaucoup. Ça aide. Apprendre à s'accepter et s'accepter avec ses forces et aussi surtout ses faiblesses.
C'est quoi votre faiblesse ? Je ne vois que des forces.
Ah ouais ? Ma faiblesse... Non, mais des fois, j'aimerais... Ouais, des fois, je me dis que j'aimerais bien être capable de lâcher plus prise.
Ah ouais?
De pas être tout le temps dans cette recherche de l'excellence, juste savourer, de pas être tout le temps celle qui lead, celle qui veut réussir, celle...
Celle sur qui on se repose au final.
Voilà,
hein.
C'est ça. Ouais,
c'est fatigant parfois.
Ouais, c'est ça.
Cette working girl là,
ouais,
permanente.
C'est ça. Et donc des fois je me dis, ceux qui arrivent à le faire, c'est pas mal.
On décide à votre place?
Alors maintenant j'ai appris à avoir des zones où je me dis c'est vraiment pas ton point fort. Genre le sens du détail, etc. C'est vraiment pas ce que tu préfères, hein, donc c'est pas ton truc. Donc laisse faire ceux qui aiment ça.
Délègue.
Et accepte leurs décisions. Parce qu'après, ça peut être, hey. Je suis pas sûre. Mais non, laisse-toi porter.
Et vous y arrivez.
Ouais, selon les thèmes, ouais, je laisse faire.
Régulièrement, vous vous posez, vous réfléchissez, vous prenez du recul sur les situations. Vous arrivez à faire ça ?
Oui. Alors surtout en ce moment, parce que c'est un nouveau poste, donc je me pose beaucoup de questions, je me dis ok, est-ce que ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce que c'était bien, est-ce qu'il y a des choses où tu aurais pu mieux faire ou faire autrement, etc. Comment tu penses que les choses se passent, est-ce que les gens semblent à l'aise avec ce que tu es en train de faire, etc. Donc ouais, dans les prises de poste, c'est un moment qui avec beaucoup plus de fragilité que quand on est installé dans un poste qu'on connaît, parce qu'on se remet beaucoup en question et on se dit est-ce que ta façon de faire, certes a marché précédemment, mais est-ce que c'est encore la bonne et est-ce que c'est encore la meilleure façon de faire aujourd'hui. Donc en ce moment, ouais, je me pose beaucoup de questions. Et du coup, je pose beaucoup de questions aux autres, c'est-à-dire je leur dis, ça vous va ? Ça a l'air d'aller ou pas ? Dites-moi. Si ça va pas, dites-moi.
Ils vous répondent franchement.
Ouais. Parce que c'est posé naïvement en fait. C'est pas, je te pose la question pour que tu me rassures. C'est je te la pose vraiment quoi. Et si ça va pas, franchement, n'hésite pas.
Donc, et un mari psychologue, ça aide ?
Ouais. Des fois, quand il voit que je suis un peu dans mes réflexions, il me dit bon, vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Et du coup, je lui partage, je lui dis voilà, il y a eu ça, puis on en discute, et rien que le fait d'en discuter, ben, du coup, ça permet de passer à autre chose.
Et... C'est ça, la psychologie ?
Ouais, c'est ça, et d'offrir l'espace de parole. Parce que vous pouvez parler, et l'autre, il fait un, mais s'il n'y a pas, il faut que l'autre, il dise, vas-y, raconte. Ouais, et puis d'avoir quelqu'un qui, en face de vous, vous dit, je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas, ne me dis pas que ça va, est-ce que tu veux en parler ? Juste, est-ce que tu veux en parler ? Et du coup, la personne, elle parle. Ou alors elle dit non, là, je me sens pas prête, etc. Et peut-être de lui dire, quand t'as envie d'en parler, sache que ma porte est ouverte. Généralement, ça vient.
C'est ça le management ?
En tout cas, c'est ma vision du management, ouais. De proposer un espace de parole. Et d'avancer à plusieurs. Pas ruminer.
C'est pas facile, parce que pour crever tous les abcès...
Oui, on peut pas crever tous les abcès, mais j'ai un petit radar en fait, et des fois je le vois aussi aux expressions, et je me dis ok.
Faire attention aux autres en fait.
Voilà. Hein, c'est et je me dis je vais pas l'aborder là tout de suite parce que là je vois que la personne elle a besoin de réfléchir aussi, mais de revenir dans la réunion d'après et lui dire tiens comment tu vas ? J'ai observé la dernière fois que t'as eu une drôle de réaction par rapport à ça. Est-ce que t'es confortable ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager ? Et voilà, et généralement, elle va dire, bon, alors maintenant que tu le dis... Et du coup, c'est sympa.
Ouais,
du coup, c'est sympa.
Donc une grande proximité.
Ouais.
Hein, c'est ça, c'est
important. Une confiance. Mmh. Ouais, et qu'on peut se dire les choses. Mmh. On peut se dire les choses.
Formidable, c'est une belle leçon. Merci Romina de nous l'avoir partagée.
Avec plaisir.
Aujourd'hui, ce podcast s'appelle Le Podium. Donc aujourd'hui, vous êtes en haut du podium. Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur votre podium ?
Ah, ça, c'était une question, j'y ai réfléchi longtemps. J'aurais dit ma famille en premier. Et puis, en même temps, je me suis dit, mais en fait, comme c'est dans mon habitude, c'est qui a envie de monter sur le podium avec moi ? Donc, c'est en fait... non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des personnes... qui disent moi j'aimerais bien bosser avec toi, ou moi j'aimerais bien faire un bout de chemin avec toi, prendre la route avec toi. Et du coup, ces personnes là moi je leur dis viens. Donc j'ai bien envie de leur dire ceux qui ont envie de monter sur le podium avec moi, vous venez.
Ça montre vraiment votre esprit d'ouverture et votre attention aux autres. C'est la première fois qu'on me répond ça.
Ah ouais ? Ouais. Ah bah d'accord.
Ouais, c'est génial. Parce qu'en fait, souvent, on pense à qui m'a permis d'en arriver là.
Ouais.
Okay. Et vous, vous dites, qui veut monter avec moi ? C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir, finalement, vous le partagez.
Complètement.
Mm-hmm. Et vous souhaitez que, en fait, l'ensemble de ceux qui veulent tenter l'aventure puissent être au même niveau.
Oui. Oui, parce que chacun peut apporter un petit bout d'eux pour aller soit ailleurs, parce que finalement, moi, j'ai une route, mais peut-être que parfois...
Mais vous avez une route ou vous vous laissez porter ?
J'ai une route vers le plus, vers le mieux, que ce soit professionnellement, il y a encore quelques marches à gravir qui sont possibles.
Et ce serait quoi le rêve ?
Il n'y a pas vraiment de rêve, en fait. Parce que avoir le rêve ou dire c'est ça, ce serait quoi là, après ? Parce que si j'annonce un rêve, c'est un rêve qui est atteignable. Donc je me dis, ok, si tu continues comme ça, etc., ça pourrait être atteint. Mais je n'ai pas envie de me dire.
En fait, vous ne voulez pas qu'il y ait une fin ?
Non, je ne veux pas qu'il y ait une fin. Ouais. Je ne veux pas qu'il y ait une fin. Il y a des opportunités à saisir, il y a des émotions à vivre. En fait, jusque-là, c'était aller vite, aller loin, aller haut. Et je me dis, purée, vivement que d'autres occasions puissent se représenter où tu peux ressentir ce que tu ressens. Et là, je ressens des trucs super, vraiment super sympas, quoi. C'est un nouveau poste, c'est plein de nouvelles choses, des richesses, des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, du temps partagé avec d'autres, etc. Et là, je savoure. Voilà, dans mon futur, j'aimerais pouvoir revivre ces moments-là. Au bout de ma vie, il n'y a que moi qui peux la vivre. On n'en a qu'une et il n'y a que personne d'autre. Personne d'autre, malgré tout l'amour que je peux porter à mes proches, etc. Personne d'autre n'est dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps. Et donc, je suis la seule finalement à savoir ce que je ressens au plus profond. Finalement, on est seul. On est seul dans toute cette aventure de la vie. Alors, on peut embarquer d'autres, on peut se faire embarquer, on peut vivre des choses à plusieurs, mais ce qui est à l'intérieur, il n'y a que soi. Il n'y a que soi. Et donc, je me dis, cette vie-là, il n'y a que moi qui peux la vivre. Je veux aller au bout de mes rêves, sans les définir, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a une fin. Et donc, voilà.
C'est passionnant.
Merci.
Merci beaucoup, Romina.
Merci.
Merci beaucoup.
Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, et même si l'on m'arrête, ou s'il faut briser des murs, en soufflant.
Cours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.